Sud Radio CSA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Maman, c'est toi la plus belle du monde.
Bonjour à tous, on ne s'en lance pas. Luis Mariano, maman la plus belle du monde. Très belle fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête, maman. À cette occasion, eh bien, tout le monde veut faire plaisir à sa mère avec le traditionnel bouquet de fleurs. Et si on achetait Made in France pour aider nos entrepreneurs, nos artisans qui en ont grandement besoin? Tout à l'heure, je vous ferai découvrir une box très originale dédiée aux grands-parents. Mais n'oublions pas que les mamies sont également mamans, mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec Célia, une jeune maroquinière très talentueuse qui fait le pari du luxe éco-responsable.
Sud Radio CSA La France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour Célia Mathieu.
Bonjour Nathalie, merci alors, de me recevoir.
Ah bon, on est ravis de vous avoir en plus. Alors voilà, quand on reçoit des artistes, des artisans, artistes talentueux, ben nous ça nous fait plaisir à Sud Radio. Donc vous avez créé La Singulière, le singulier. C'est votre marque de maroquinerie. Donc vous êtes vraiment une amoureuse du travail bien fait, avec des belles matières. Et vous allez le voir, c'est vrai que cette nouvelle génération d'artisans se veut particulièrement responsable aussi d'un point de vue écologique dans sa façon de fabriquer. Alors juste avant, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous avez tout de suite choisi la voie de la maroquinerie. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette matière?
Alors, au niveau de mon parcours, on va dire que j'ai deux voies. J'ai fait un cursus d'études, on va dire classique, où j'ai eu une licence en finance.
Et après,
rien à voir avec la maroquinerie. Et après cette licence en finance, je me posais un petit peu des questions. Et c'est à ce moment-là où j'ai choisi de prendre une année de césure où j'ai intégré les ateliers Grégoire Ferrandi pour passer un diplôme d'artisan en sellerie maroquinerie.
Mais qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas dans la bonne voie en choisissant la finance?
Alors, en fait, je travaillais à la banque en alternance à cette époque-là et j'avais un peu le sentiment que tout était automatisé, qu'on nous donnait des objectifs de vente et ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai choisi de faire une année de pause pour passer ce diplôme. Et après, j'ai également poursuivi mes études après l'obtention de mon diplôme d'artisan. Donc j'ai été diplômée en 2015 de l'ESCP Europe et j'ai commencé à travailler dans le conseil tout en ayant l'artisanat en parallèle. Et c'est il y a à peu près 3 ans où là, j'ai vraiment voulu donner naissance à un concept et un projet et j'ai créé ma marque.
Moi, ça m'impressionne toujours. C'est vraiment, on a le travail, on est en école de commerce, on est dans des filières où voilà, il faut quand même prendre le temps de travailler. À côté de ça, vous trouvez là aussi de vous ménager du temps pour votre passion. Alors ça a tout de suite été la maroquinerie qui vous intéressait ou vous avez testé, c'était plutôt un métier artisanal que vous recherchiez?
Alors ça s'est fait par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais déjà de la création et du dessin. Et j'étais membre d'une association créative. Et en fait, les ateliers Grégoire Ferrandi, je suis allée aux portes ouvertes. Et c'est pendant les portes ouvertes où j'ai visité les différents ateliers. Et quand j'ai visité l'atelier de maroquinerie, c'est à ce moment-là où j'ai vu le savoir-faire, le travail du cuir. Et en fait, j'ai eu un déclic. Et j'ai candidaté, je pense, la semaine qui a suivi pour intégrer l'école en passant les tests d'admission. Oui. Donc, ça a été une surprise.
Alors, vous proposez ce que vous appelez une marque de luxe éco-responsable. Ça veut dire quoi?
Oui, alors l'éco-responsabilité, pour moi, c'est dans l'approche, dans le modèle de production. Donc, dans le modèle de production que je propose, étant artisane moi-même, donc je produis une partie de la collection. La marque est labellisée du label fabriqué à Paris. Donc, je produis une partie et je
travaille... Dans votre atelier?
Oui, dans mon atelier. Et je travaille avec des artisans à Paris pour m'aider, bien sûr, dans une idée de production un peu plus volumineuse. Et en termes d'approche responsable, c'est surtout par le choix des matières. Je choisis de me fournir vraiment dans les stocks existants. Donc je travaille avec des acteurs qui en fait vont récupérer les stocks dormants de grandes maisons. Et en fait, je pars de ces stocks pour faire mes produits. Donc j'ai une série de modèles que j'utilise de manière récurrente, une petite série de modèles, mais où je varie les matières et en fait où je propose aux clients d'accepter que peut-être à un moment ce sera une édition limitée et qu'il ne retrouvera pas la même couleur, même s'il peut retrouver le même modèle.
Mais en même temps, peut-être que c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui, la rareté, personnaliser finalement son produit. Alors, vous parliez de stock dormant, je pensais qu'il y avait justement un problème de matière première, de moins en moins de cuir de qualité, mais il y a encore des résidus de grandes maisons qui pourtant sont de très très bonne qualité qui ne sont pas utilisés.
En fait, ce qui se passe, c'est que la taille des petites structures fait que pour nous, on a des volumes qui nous permettent de faire des petites séries. Mais pour une grande maison, pour une grande structure, il s'agit de quantités infimes qui ne leur permettent pas de lancer des séries. Donc en fait, c'est là où C'est un avantage pour nous et en plus ça rentre en cohésion avec nos valeurs où ces petites séries, ces petites quantités, ben, pour notre taille, nous permettent de produire des séries. Et en fait, c'est des stocks qui sont écartés par les grandes maisons.
Oui, il faut bien le rappeler parce que ces stocks écartés sont d'excellente qualité, oui. Parce qu'ils sont très très exigeants dès le départ hein, dans la matière première. Donc pour vous, c'est justement bénéfique de pouvoir profiter de ces stocks, comme vous le dites, hein, dormants. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail avec ces grandes maisons. Il a fallu les rencontrer pour pouvoir créer un lien et montrer qu'on est... En même temps, c'est difficile de toute façon de concurrencer ces maisons qui sont installées sur plusieurs générations. Ils sont ouverts à collaborer avec des jeunes.
Moi, dans mon modèle, je travaille avec des intermédiaires, dont un en particulier qui est fondé par une ancienne, justement, personne qui a travaillé dans ces grandes maisons. Donc, elle a des contacts privilégiés et c'est elle qui joue ce rôle, en fait, d'interaction et d'aller chercher les matières pour pouvoir nous les proposer. Et après, j'ai vu également que même récemment, si je ne me trompe pas, c'est LVMH qui a lancé aussi une plateforme pour mettre à disposition ces stocks dormants. Donc je pense qu'ils commencent à prendre conscience qu'il y a un besoin, qu'ils peuvent proposer des matières à d'autres structures. Et c'est une nouvelle approche aussi, de proposer leurs matières à d'autres structures pour qu'elles puissent fabriquer leurs produits. Et je trouve ça assez cool.
C'est une approche intelligente. Alors, on a un sac avec vous. Alors c'est vrai qu'en radio, c'est difficile de voir, mais aujourd'hui, la radio est souvent filmée. Est-ce que vous pouvez le prendre ce sac et nous le décrire, Célia, justement. Oui. Parce que c'est vrai que là aussi, dans votre approche, il y a toujours cette volonté, non seulement qu'il y ait donc, ce prisme de l'éco-responsabilité, mais aussi que ces sacs soient porteurs de sens, qu'ils soient fonctionnels, parce que la femme aujourd'hui, elle ne veut pas juste avoir un sac pour avoir un sac. Il faut qu'il puisse l'aider au quotidien, ce sac.
Alors, en termes de produits, je dirais que les sacs naviguent. Il y a une notion de design, je vais vous présenter le produit, et il y a une notion aussi, comme vous disiez, que le produit soit pratique. Donc, j'ai apporté deux modèles de sacs.
Alors, restez bien à côté du micro. C'est compliqué de pouvoir présenter. Alors, expliquez-nous justement ce sac qui est devant vous. Déjà, le décrire aux auditeurs qui ne le voient pas.
Oui. Alors, le sac, il s'agit d'un sac Kaba qui est bimatière. Donc, il y a un cuir grainé qui va apporter un côté très texturé et un cuir lisse. Il est d'une couleur vert émeraude. Et en fait, au niveau de la bandoulière, j'ai choisi d'avoir une bandoulière qui soit justement asymétrique pour apporter un côté singulier, justement. Et avec un bijou, un monogramme qu'on va retrouver sur tous les produits de manière récurrente, qui est le monogramme de la marque. Et des maillons que j'ai fait faire sur mesure, qui sont des maillons qui viennent d'une entreprise italienne qui a une expertise dans ce domaine. Donc c'est un sac qui est vraiment très pratique, que j'ai voulu très fonctionnel pour les femmes qui veulent mettre un ordinateur, un bloc-notes. Donc il a une taille, on va dire, assez grande. Ouais. Et j'ai un autre modèle de sac. Alors je vous le présente, je ne sais pas si...
Alors lui, c'est un sac, on va dire, c'est une demi-sphère.
Oui, exactement, je l'appelle le demi-lune.
Le demi-lune.
Donc, c'est un sac demi-lune qui, justement, se porte en bandoulière. Il peut aussi se porter, si on enlève la bandoulière, avec un porté un petit peu plus petit. Ça peut être plutôt pour, on va dire, je pense, plutôt en soirée. Il y a toujours cette idée de monogramme qui est posée sur tous les produits. Et j'ai voulu qu'il soit fermé, par exemple, pour une femme qui est dans le métro, dans les transports, qui se déplace beaucoup. Elle peut avoir ce modèle qui l'accompagne.
On voit bien la notion fonctionnelle. Hein. C'est vraiment, vous réfléchissez à notre environnement dans lequel ces femmes évoluent pour leur proposer le sac qui soit le plus adapté possible. Alors, c'est pas simple, justement. Nous, à Sud Radio, on a un plaisir à mettre en avant ces jeunes artisans, ces jeunes entrepreneurs, parce qu'il faut aussi faire place à cette nouvelle génération. Donc, une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a lancé sa marque, le plus compliqué, j'imagine, c'est de gagner en notoriété. Alors, comment fait-on? C'est le numérique? Ce sont des salons qu'il faut constamment enchaîner?
Alors, en termes d'approche, j'essaie de me rapprocher de structures qui mettent en avant le luxe responsable. Je fais partie de 1618. 1618 est en fait une agence qui, justement, fait une sélection. Il y a vraiment un processus de sélection à l'entrée qui est assez strict pour sélectionner des marques de luxe responsable. Et en fait, le fait de faire partie de ce type de concept, ben en fait, les distributeurs ou les acheteurs, ça leur permet d'avoir des contacts. On peut avoir des contacts privilégiés avec eux. J'essaye aussi, en ayant le label Fabriqué à Paris, je suis membre de l'association justement du label Fabriqué à Paris, d'évoluer dans cet environnement de mode responsable, de luxe, pour tisser des contacts. Et pour donner justement une petite nouvelle par rapport au développement de la marque, très prochainement, on a un grand distributeur qui va commencer à distribuer ma marque.
Bravo!
Merci. Ce qui est assez exceptionnel, ça va se faire très rapidement. Et je tiens à saluer cette approche parce qu'en fait, ils se sont adaptés à notre taille. On est plusieurs entreprises et ils ont fait une sélection de petites entreprises et ils nous ont vraiment accompagnés dans la compréhension de leur système de logistique, d'administration, pour pouvoir proposer vraiment des jeunes créateurs qui mettent en avant l'artisanat français.
C'est bien parce que du coup, on avance davantage en famille, hein, voilà, en famille de oui. passionnés. Oui. C'est important parce que vous avez cité tout à l'heure l'Italie sur un petit élément de votre sac. Les Italiens ont été très forts pour maintenir tous ces petits savoir-faire, notamment dans le domaine du luxe. Nous, on en a laissé partir. Donc, c'est bien de voir ces grandes maisons soutenir justement des jeunes artisans comme vous parce qu'ils savent qu'il y a cet amour de la matière, le travail bien fait. Et au final, juste un dernier mot. La gamme de prix, pour ceux qui nous écoutent, justement, quand on fait appel à une artisane comme vous.
Oui, alors la gamme de prix, je précise aussi que j'ai des produits pour hommes de petites maroquineries. Et la gamme de prix va commencer en dessous d'une centaine d'euros. Et il y aura des sacs qui pourront aller à un budget qui sera un peu plus de 1000 euros en termes de positionnement prix.
Merci beaucoup, Célia. Merci. Mathieu. Je rappelle que vous avez créé La Singulière, Le Singulier, une très jolie marque de maroquinerie de luxe éco-responsable. Merci beaucoup, bon dimanche. Et puis, alors, je ne sais pas si vous êtes maman, peut-être pas encore, vous me paraissez jeune. Donc, je ne vous souhaite pas bonne fête des mères. C'est vous qui allez le souhaiter
oui,
à votre maman.
Oui, j'offrirai un cadeau.
Merci beaucoup. Allez, on va se quitter un court instant et juste après, je vous ferai découvrir deux jeunes femmes qui ont lancé une box. Une box, c'est une très très bonne idée, ça aussi. Alors, qui s'adresse davantage aux mamies, aux papis, mais là, en l'occurrence, aux mamies, parce que les mamies sont également mamans. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes avec Carla Morène qui a créé donc l'entreprise Naja, la box Naja, qui a cofondé cette box. Bonjour Carla.
Bonjour.
Alors, c'est la fête des mères, hein, on est tous contents, donc c'est l'occasion aussi d'offrir des cadeaux et pourquoi pas une box, comme ça au moins c'est la fête des mères toute l'année, on peut prendre un abonnement. Alors c'est vrai que quand on pense à la fête des mères, bon, on a toujours cette image d'une maman avec des jeunes enfants qui vont offrir le fameux collier de nouilles ou un autre cadeau, ou un beau dessin, mais on a aussi des mamans un peu plus âgées qui ont des enfants, qui ont déjà des enfants, et c'est l'occasion, pourquoi pas, de se rapprocher de ses grands-parents et faire le lien davantage entre petits-enfants et grands-parents à travers cette box. Carla Morène, racontez-nous justement comment vous est venue cette idée avec Rebecca Loeb de créer cette box Naja pour les grands-parents.
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que toutes les mamies sont avant tout des mamans, donc vous avez tout à fait raison. C'est une bonne occasion de gâter nos mamies-mamans, si je puis dire. Alors du coup, Naja, comment Naja est née? Écoutez, ça s'est passé pendant le premier confinement. La crise sanitaire a vraiment été un élément déclencheur pour Rebecca et moi parce qu'on s'est rendu compte en fait que nos grands-parents étaient vraiment victimes d'un isolement assez fort qui a été accentué par le confinement. Donc en fait, Rebecca et moi, on a pris et nos grands-parents respectifs. Mes grands-parents habitent à Bruxelles et la grand-mère de Rebecca, elle habite à Londres. Et on s'est rendu compte que l'impact sur la santé physique et mentale de nos grands-parents était assez néfaste de toute la situation et on a voulu leur venir en aide.
Donc venir en aide aux personnes âgées isolées.
Exactement, parce que contrairement à nous, les personnes âgées isolées n'ont pas spécialement un accès vraiment facile à tout plutôt digital qui permettent de se changer les idées comme Netflix ou Amazon. Pendant le confinement, on s'est tous commandé des kits tie and die, des puzzles, des jeux pour s'occuper, regarder une tonne de séries sur Netflix. Et malheureusement, nos grands-parents, ils n'avaient pas ces petits moments qui permettent de s'échapper et ils n'avaient pas d'accès facile à tout ça. Donc avec Rebecca, on a commencé justement à envoyer à nos grands-parents des activités pour les occuper, donc des puzzles, des dessins, des mandalas. On réfléchissait aussi à des activités qui leur feraient du bien et qui leur permettraient de se déstresser un peu et de se changer les idées. Et en fait, au fur et à mesure des envois qui ont été de cadeaux qu'on leur a faits, il y a des nouveaux rituels qui se sont créés avec nos grands-parents, une dynamique qui s'est installée. On s'appelait beaucoup plus souvent pour parler de tous les cadeaux qu'on leur envoyait. Et ça nous a permis aussi de vachement renforcer le lien entre nos grands-parents et Rebecca et moi. Et ça nous a permis de découvrir de nouveaux aspects de leur personnalité.
Mais c'est l'expérience personnelle, mais comment on passe de cette expérience à justement cette box? Et là, vous êtes dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Nos grands-parents, pardon, ne sont sûrement pas les seuls à être isolés. Donc, essayons finalement de leur créer quelque chose, quoi, de façon à ce qu'ils aient, ils ont une sorte de un petit plaisir chaque mois à recevoir son petit cadeau par la poste. Avec donc, vous le disiez, c'est quoi ? C'est des jeux. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces box ?
Alors voilà. Oui. Donc on a vu les bienfaits sur nos familles respectives et on s'est dit que voilà, d'autres familles pourraient en bénéficier. C'est là qu'on s'est lancé et qu'on a créé la box Naja, qui est la première box cadeau qui est vraiment faite pour donner le sourire à ses grands-parents. Et donc, dans la box, on retrouve premièrement le livret Naja, qu'on co-crée avec des experts pour, en fait, accompagner les grands-parents dans le mieux vieillir et les aider à cultiver une pensée positive. Donc, dans le livret, on retrouve des jeux de réflexion, des jeux de mémoire comme des sudoku ou des énigmes et des devinettes. On retrouve également des articles bien-être et santé, des blagues. On retrouve aussi des propositions d'échange avec sa famille, donc des questions pour, en fait, délier un peu les langues et partager des nouveaux sujets en famille. Et on retrouve également 3 à 4 produits qui sont axés sur nos grandes thématiques, qui sont le bien-être, la créativité, la gourmandise et la culture.
Ça veut dire que vous avez créé des partenariats avec toutes ces entreprises. Comment vous les choisissez d'ailleurs, ces entreprises ?
Alors, on a décidé, en se lançant, de travailler avec des startups qui étaient des startups à impact environnemental ou sociétal. Et donc, on a, avec Rebecca, cherché des nouveaux produits qui correspondent, qui sont adaptés aux besoins de nos grands-parents, mais qui parlent aussi aux plus jeunes générations, parce qu'on s'est dit que c'était à ce moment-là que, quand il y avait un intérêt commun pour les produits de la box entre les plus jeunes et les plus âgés, c'était à ce moment-là que le lien se créait réellement. Ouais. Donc, on travaille avec des startups qu'on contacte, Rebecca et moi, avec qui on a réussi au fil des mois à créer une vraie relation. Je peux citer par exemple Panacée, qui crée des shampoings solides, avec qui on a déjà travaillé sur plusieurs box, ou avec Popic, qui crée des puzzles. Pour trouver des produits qu'on inclut dans la box.
Alors à ce jour, combien de box ? La box a été lancée assez récemment, vous le disiez, puisque c'est né pendant le confinement. Vous en êtes à combien de box vendues à ce jour ? Où est-ce que vous en êtes d'ailleurs en termes de bilan pour l'instant ?
Alors, on a vendu à peu près plus de 2000 box aujourd'hui.
Ah, c'est un beau début, hein. c'est encourageant.
Tout à fait. Exactement. On a vendu des box, en fait, via notre site en ligne .fr et aussi des box aux adhérents de Malakoff Humanist. On a créé une box spécifique aidant aider qu'on a co-créée avec l'association avec nos proches. Et donc, ça nous a permis aussi d'augmenter notre nombre de ventes et d'aller toucher une cible un peu différente, donc les aidants et les aidés.
Je tiens à préciser à nos auditeurs, parce que parfois il y a des petites coupes, oui. Car là vous êtes en Belgique en ce moment, c'est pour ça qu'on a des petits soucis parfois de connexion. Alors il y a des fois, on a des intervenants à l'étranger où il n'y a absolument pas de soucis, mais c'est vrai qu'on sent parfois des petits... on perd quelques petits mots, donc vous avez dit Naja. Naja, comment est-ce qu'on l'écrit ? Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement bénéficier de cette box, comment est-ce qu'on la commande ? Où est-ce qu'on la commande cette box ?
Alors, la box, elle est disponible sur notre site, qui c'est najabox.fr.
N-A-J-A, c'est ça ?
Oui, najabox.fr.
Voilà. Et donc, vous livrez dans la France entière ?
Dans la France entière et même en Belgique.
et bientôt voilà. Dans l'Europe entière. Non, c'est une très, très jolie aventure. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir, à vous et à vous deux d'avoir eu cette belle idée. Najabox, hein, vous l'avez compris, c'est une façon de rapprocher les grands-parents et les petits-enfants. Merci beaucoup pour votre témoignage, Carla Morin.
Merci à vous d'avoir pris le temps.
Au revoir et bon dimanche journée. Et bonne fête des mères à vos mamans qu'on embrasse aussi depuis Sud Radio.
Bonne fête des mères à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, de quoi allez-vous nous parler en cette journée de fête des mères ?
Eh bien, un coup de cœur. J'ai rencontré une perlière d'art. Elle s'appelle Geneviève Darrier. Elle crée des bijoux pas comme les autres, notamment des perles soufflées d'un à 2 cm, en travaillant le verre à très haute température.
C'est bien parce que c'est rare comme savoir-faire.
C'est rare, exactement. Et ces perles sont uniques. Mais je la laisse vous parler de son travail. Elle était en pleine action dans son atelier situé dans le cœur historique de Nérac, dans le Lot-et-Garonne.
Voilà, donc je suis en train de couler et souffler le verre. Je travaille le verre de Murano sous forme de baguette que je vais amener vers un chalumeau Donc, j'ai un mélange de propane et oxygène. Et au niveau de la chaleur, je monte à 1750 degrés.
Donc, on allume le compresseur, la flamme du chalumeau apparaît.
Je suis en train de tourner, d'équilibrer, de façonner la perle.
Qui prend une jolie couleur orangée.
Elle commence à prendre une jolie couleur. Vous allez voir Thibaut, elle va être bien ronde. Juste avant, c'est très important, l'étape pour souffler. Et quand je vais souffler dans la canne, je vais souffler de manière régulière, doucement, en équilibrant mon souffle pour tourner et que le souffle aille partout pour que ça s'équilibre dans la perle. Voilà, quand j'ai fini, quand j'estime que ma perle va bien, donc je la mets dans le four. Et ensuite, quand ma pièce est froide, je vais retirer ma perle de la canne. Et donc, ensuite, je vais poncer avec une petite lime l'intérieur de ma perle pour pouvoir la monter. Vous voyez, par exemple,
pour la monter
là,
en collier, en boucle d'oreille, c'est ça?
Alors, oui. Alors, les perles soufflées, c'est plutôt pendentif, collier. Voilà. Je peux faire des boucles d'oreilles parce que...
Entre parenthèses, des idées cadeaux pour la fête des mères.
Exactement. Personnalisées.
Personnalisées.
Par exemple, là, vous voyez, vous avez des cristaux d'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre semi-précieuse et c'est une des seules pierres qui peut fusionner avec le verre, qui ne perd pas ni ses couleurs, ni ses nuances, ni ses vertus.
Alors, Geneviève vient de nous parler justement de la technique du verre de Murano. De quoi s'agit-il exactement, Thibaut ?
Eh bien, il s'agit d'un savoir-faire qui est né au XVIe siècle, sur l'île de Murano, vous savez, au nord de Venise. Et c'est là qu'on trouvait les plus beaux verres et les verres les plus nobles, et surtout les maîtres verriers les plus réputés de l'époque. Et c'est eux qui ont popularisé sa fabrication à la main, à la flamme du chalumeau. Justement, à propos de technique, Geneviève m'a raconté comment elle a été formée. Et pour cet artisan de lumière, comme elle se définit, on peut vraiment parler de vocation, puisque ça remonte à l'enfance.
Ben, en fait, j'ai quand même beaucoup voyagé entre 20 et 30 ans. Et j'avais un grand-père qui était forgeron.
Oui, donc un artisan aussi.
Donc un artisan. Donc le feu également.
Ce des lien avec feu, bien sûr. Voilà.
Exactement. Mmh. Et petite, à l'âge de 5 ans, je martelais déjà sur son enclume et je faisais des bagues. Et donc, avec mes voyages, j'ai travaillé différentes matières, la résine, le bois... Et puis le verre m'est venu à un moment parce que ce que j'aime avec le verre, c'est ces jeux de transparence. Mmh. Et je suis partie, donc j'ai cherché une formation et j'ai trouvé une formation avec des maîtres verriers, des artisans. Et donc, ils m'ont formée au verre. Et là, ça a été vraiment la révélation. Qui faisait que voilà, c'était une évidence.
C'est l'évidence.
Geneviève, elle en parle avec beaucoup de passion et ça fait plaisir. Ça donne envie, hein, pourquoi pas offrir justement une de ses perles.
Et puis on peut les voir sur son site. D'ailleurs, elle a un site internet www.gdarierbijoux.fr. Darier, ça s'écrit D-A-2-R-I-E-T.
Bijoux avec un X, voilà. Lumière.fr.
C'est quelqu'un qui donne vraiment du sens à ce qu'elle fait. Voilà. Belle rencontre.
Merci beaucoup, Thibaut.
Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma.
Merci Thibaut, merci chers auditeurs, c'était un plaisir de vous faire découvrir, comme chaque dimanche, des jeunes entrepreneurs talentueux. Il ne vous reste plus qu'à écrire une jolie carte pour accompagner le cadeau et le bouquet de fleurs et le tour est joué. Je vous souhaite une très belle fête des mères, là encore à toutes les mamans, et on se quitte en musique avec Christophe Maé, Maman. Allez, à dimanche prochain.
Quand je la regarde faire, j'ai les larmes aux yeux, mais ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu. Ce n'est qu'une mère qui voudrait être le bon Dieu.